à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du 8 mai 2019. Raissa Girondin et Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres.
Les Sud-Africains ont voté en masse dans des élections législatives et régionales.
7 opposants guinéens ont été condamnés à 3 mois de prison pour avoir manifesté contre la modification de la Constitution.
Les manifestants soudanais menacent de désobéissance civile et accusent les généraux de retarder le transfert du pouvoir.
L'Iran dit s'affranchir de certains engagements de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire.
La Maison-Blanche qualifie d'illégal les demandes des démocrates au Congrès sur le rapport Mueller.
Et on aura l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire les députés représentants d'assemblées provinciales. Le parti au pouvoir, ANC, devrait conserver la majorité au Parlement, mais il a perdu de son aura, notamment parmi la jeune génération qui n'a pas connu l'apartheid. Le point sur le scrutin avec Patricia Huon à Johannesburg.
C'est un scrutin important en Afrique du Sud, un vote qui fait office de test pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Son image a été profondément endommagée par les scandales de corruption et l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie. L'ancien mouvement de la libération ne jouit plus de la même aura, notamment auprès de la jeune génération qui n'a pas connu l'apartheid. À l'université de Witwatersrand à Johannesburg, beaucoup évoquent l'envie d'un renouveau que Cyril Ramaphosa, le nouveau président, ne suffit pas à leur inspirer.
Je ne pense pas que le changement puisse venir d'une seule personne. La plupart des gens qui sont encore dans le parti étaient là avant Ramaphosa. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et qu'il faut laisser une chance aux autres partis pour voir ce qu'ils peuvent faire.
L'ANC reste néanmoins presque certain de conserver sa majorité au Parlement. L'opposition peine encore à convaincre massivement et le parti profite toujours de son crédit historique et d'une puissante machine électorale.
Si je suis à l'université aujourd'hui, c'est grâce à l'ANC. Si mes études sont gratuites, c'est grâce à l'ANC. Sous l'apartheid, je n'aurais même pas pu avoir le bac. Ce parti a fait pour nous plus que n'importe quel autre parti politique. Oui, il y a eu des difficultés, mais il faut comprendre que cela prend du temps.
Parmi les jeunes en milieu urbain, le parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema séduit. Selon les sondages, celui-ci devrait passer la barre des 10% et s'imposer comme un acteur incontournable de la scène politique du pays. À l'université, dans la queue qui s'étend devant le bureau de vote, beaucoup d'étudiants portent bérets rouges et t-shirts imprimés du logo du parti.
L'IF nous représenterait. Les politiques qu'ils veulent mettre en place intégreraient les Noirs dans l'économie. Il y a beaucoup d'inégalités dans ce pays. Seule une minorité profite, que ce soit une élite noire ou les Blancs. Mais le peuple souffre. L'ANC veut nous faire croire que nous ne sommes redevables. Mais nous ne leur devons rien.
Le taux de participation à cette élection pourrait cependant être assez bas, particulièrement parmi les jeunes. Or, une faible participation atténuerait la force du mandat confié au parti vainqueur. Il sera aussi intéressant de voir le score qu'obtiendra l'ANC. Une large majorité donnerait une plus grande marge de manœuvre à Cyril Ramaphosa qu'une victoire sur le fil. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
7 opposants guinéens ont été condamnés à 3 mois de prison ferme pour avoir manifesté contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Lors d'un déplacement le 4 mai à Kinda, le président a été accueilli par des partisans et responsables locaux qui lui demandaient de modifier la loi fondamentale. Monsieur Condé leur avait répondu « J'ai écouté le message, le moment venu je vais vous répondre, mais nul ne peut s'opposer à la volonté du peuple ». Fin de citation. 7 membres du Front National pour la Défense de la Constitution qui manifestait près de ce rassemblement avait été interpellée.
Dans le nord-est du Nigeria, 9 civils ont été tués dans 2 attaques attribuées à des djihadistes. Arrivés à bord de camions, les assaillants ont attaqué le village de Molaï hier soir, où ils ont tué 6 personnes et pillé et brûlé des dizaines de maisons. Après l'attaque, l'aviation nigériane a bombardé la zone vidée de ses habitants. Dans une autre attaque, les djihadistes présumés ont tué 3 fermiers près de Konduga.
Les meneurs de la contestation au Soudan accusent les généraux de vouloir retarder la transition et ont menacé de lancer un mouvement national de désobéissance. Ekiabadou.
Le conseil militaire de transition qui a succédé à M. Béchir est accusé de renvoyer à plus tard le transfert du pouvoir après plusieurs réunions avec l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance des manifestations. Les généraux ont déclaré mardi qu'ils sont d'accord avec la plupart des propositions de l'ALC sur la transition. Cependant, ils ont soulevé la question de la charia ou loi islamique, estimant qu'elle devrait rester la source de la législation. Le Conseil reproche à l'Alliance de ne pas l'avoir mentionné dans ses propositions. Pour le mouvement de contestation, les généraux ont soulevé des questions non pertinentes, y compris celles de la langue officielle et des sources de la législation. Autre point de désaccord, les manifestants veulent une période de transition de 4 ans, alors que les militaires estiment qu'elle peut être de 2 ans seulement. Aussi, les chefs de la contestation ont rejeté l'idée d'élection générale dans 6 mois, en cas d'échec de la transition avancée par les généraux.
En RDC, 4 militaires, un policier et 8 miliciens Maï-Maï ont été tués dans des combats, ont indiqué les forces de sécurité. 8 miliciens ont été tués dans la contre-offensive de l'armée après une attaque de la ville de Boutembo et un sous-officier de police a été tué pendant l'attaque. Dans l'Ituri, 4 militaires, dont 2 officiers, ont succombé à leurs blessures après une attaque de miliciens. Outre l'insécurité, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont touchées par une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 1000 morts depuis août. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers.
La République du Congo a décidé de rapatrier 142 étudiants de Cuba pour avoir réclamé violemment leur bourse d'études et enregistré de mauvais résultats scolaires. Sur la liste des rapatriés figurent 66 étudiants qui avaient réclamé leur arriéré de bourse fin mars devant l'ambassade à La Havane. L'un des jeunes s'était battu avec un policier cubain a déploré Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran a annoncé cesser d'appliquer certains engagements de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. En réponse à la dénonciation de ce pacte par Washington, il y a tout juste un an, John Linden nous en dit plus.
L'Iran cesse de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, ce qui veut dire revient sur les termes de l'accord de juillet 2015 à Vienne, limitant son programme nucléaire. Téhéran a lancé aussi un ultimatum aux Européens, leur donnant 2 mois pour trouver une solution pour alléger les effets des sanctions américaines. Annonce intentionnellement ambiguë a réagi Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine. Londres l'a jugé inopportune. Berlin appelle Téhéran à mettre en œuvre l'accord dans sa totalité. Paris n'a pas exclu que l'Union européenne prenne de nouvelles sanctions contre l'Iran. Moscou, quant à lui, exhorte les signataires restants de l'accord à remplir leurs obligations. Pékin appelle toutes les parties à faire preuve de retenue, d'autant que Washington a déjà déployé un navire et des bombardiers B-52 dans le Golfe et accuse l'Iran de préparer des attaques contre des intérêts américains.
Ici aux États-Unis, la commission juridique de la Chambre des représentants vote ce mercredi sur une entrave aux prérogatives du Congrès visant le ministre de la Justice William Barr, tandis que la Maison-Blanche rejette les demandes des démocrates sur l'enquête russe. Abdourahman Dia.
Ni la Maison-Blanche, ni le ministre de la Justice William Barr ne répondront aux demandes illégales des démocrates, a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif. Selon elle, les Américains voient clairement que les manœuvres désespérées de Jerry Nadler, chef de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, visent à les détourner des succès historiques du président et d'une économie florissante. M. Nadler a immédiatement dénoncé une initiative sans précédent, appelant tous les élus à réagir au nom des institutions. Personne, ni le ministre de la Justice, ni le président, ne peut être au-dessus de la loi, a-t-il martelé. La commission juridique, qui est contrôlée par les démocrates, s'est penchée sur une entrave aux prérogatives du Congrès, une sorte d'inculpation qui peut donner lieu à une enquête contre le ministre de la Justice. Les démocrates réclament le rapport complet de 450 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe.
En Afghanistan, l'attaque lancée ce mercredi par les talibans contre l'ONG américaine Counterpart International à Kaboul s'est achevée après plus de 5 heures de combat. 5 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine ont été blessées. Les talibans ont revendiqué l'attaque, accusant sur Twitter l'ONG d'être impliquée dans des activités nuisibles et de faire la promotion de la culture occidentale. Cet attentat est survenu alors que les insurgés se trouvent engagés depuis plusieurs jours dans des négociations de paix avec les États-Unis à Doha, au Qatar.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est avec Nani Talani.
Au Gabon, disparition des centaines de conteneurs d'environ 5000 mètres cubes de Kevasingo, un bois précieux interdit d'exploitation, saisi fin février et début mars au port d'Owendo à Libreville dans 2 sites des Chinois. Le quotidien L'Union écrit que les 353 conteneurs de bois frauduleux étaient pourtant placés sous le contrôle de la justice. Selon le procureur de la République, les agents du ministère des Eaux et Forêts ont sciemment déplacé les conteneurs aux fins d'exportation frauduleuse. Il assure que toutes les personnes impliquées seront poursuivies, quel que soit leur rang et grade. La RDC lance un appel à manifestation d'intérêt pour un projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le gouvernement congolais a obtenu de la Banque mondiale un crédit pour financer ce projet, dont la mise en œuvre durera 5 ans, de 2019 à 2023. L'objectif est de développer le secteur privé. Les ONG, groupements communautaires, firmes ou cabinets de consultants intéressés par l'initiative sont invités à manifester leur intérêt. Terminons avec la Zambie où la production de maïs devrait baisser de 16% à environ 2 millions de tonnes cette année contre 2,39 millions de tonnes l'année dernière. D'après le ministre de la Culture, Michael Katombo, la production de maïs réduite était en grande partie due à un temps sec prolongé. Mais le pays dispose de stocks de maïs suffisants pour couvrir ses besoins.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Deuxième demi-finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, l'Ajax n'a jamais été aussi proche de revivre une finale de Ligue des Champions. Le club d'Amsterdam, en ballotage favorable depuis son succès 1-0 en demi-finale aller, cherche à confirmer à domicile face à Tottenham. En cas de résultat positif, l'Ajax peut s'offrir la possibilité d'un incroyable triplé Coupe Championnat Ligue des Champions. Un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1972 et l'équipe d'un certain Johan Cruyff. Dans la première demi-finale disputée hier, Liverpool a réussi son comeback contre Barcelone en s'imposant 4-0 après avoir été dominé 0-3 à l'aller en Espagne. Les Reds sont donc les premiers à se qualifier pour la finale du 1er juin.
Revenons sur la défaite de Barcelone. La presse espagnole qualifie la prestation catalane de ridicule.
Et oui, fait rare, le quotidien catalan Sport n'a orné sa une d'aucune photo, préférant un titre en grand caractère sur fond noir de deuil, je cite, le plus grand ridicule de l'histoire. Le Barça écrit sa page la plus sombre en étant éliminé de la Ligue des Champions de manière impardonnable à Anfield, à Seine Sport, pointant la responsabilité de l'entraîneur Ernesto Valverde. Pour Mundo Deportivo, l'autre grand journal sportif barcelonais, le naufrage de l'équipe de Valverde est tout simplement une honte. Un Barça sans âme subit une débâcle à Anfield, écrit le quotidien en première page. À Madrid, les journaux pro-Real semblent davantage surpris. Coup de tonnerre à Anfield a titré le quotidien AS avec cette mention. Nouvelle hécatombe du Barça en Ligue des Champions et adieu au triplé. Le journal El Mundo a résumé l'état d'esprit général. Le Barça a signé à Liverpool l'une des prestations les plus ridicules de son histoire. En Angleterre, par contre, le Daily Mail lui parle simplement du miracle de Anfield.
La FIFA rejette l'appel de Chelsea sur son interdiction de recrutement.
Oui, la FIFA a confirmé l'interdiction faite au club anglais de recruter pour les 2 prochains mercato. Chelsea ne pourra donc pas acheter de joueurs jusqu'au 31 janvier 2020. L'instance mondiale reproche à Chelsea la violation de la réglementation sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Conséquence directe, Chelsea ne pourra pas se montrer actif sur le marché des transferts cet été, qui débute le 11 juin pour l'Angleterre. L'amende de 525 000 euros est également confirmée. Les Blues ont fait appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport pour tenter de retarder l'application de la sanction.
C'était Yakuba Ouedraogo, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Gironda et Nathalie Barge en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour.
Les Sud-Africains ont voté aujourd'hui pour des élections législatives et régionales. La commission électorale doit publier dès demain jeudi les premières tendances. Le futur président, élu par les 400 députés, sera investi le 25 mai. Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste politique Kofi Kwaku pour une analyse.
L'enjeu le plus important, c'est de savoir qui va diriger le futur de l'Afrique du Sud. Il y a de très fortes chances que l'ANC va sûrement rester au pouvoir. Mais ce qui n'est pas très sûr, c'est le contentement général de la population sud-africaine à savoir si leur vie change, surtout au niveau d'un certain nombre de critères, sur par exemple le chômage, la pauvreté, les inégalités, les crimes, et puis surtout, la corruption. Alors là, que ce soit les Sud-Africains moyens ou pauvres en général, sont très inquiets au niveau de ce futur. C'est pas seulement que l'ANC va gagner, mais le plus important, c'est de voir si la qualité de la vie et le niveau de vie des Sud-Africains vont changer après ces élections. C'est ça l'enjeu le plus important.
Le président Ramaphosa a promis une nouvelle aube. Est-ce qu'il aura la tâche facile pour relancer l'économie et nettoyer l'état de la corruption?
Pas du tout. Ce ne sera pas aussi facile. Même avec cette nouvelle donne que les sondages prédisent, il y a peut-être même de fortes chances que l'ANC n'ait pas vraiment une majorité très forte parce que les choses ne sont pas aussi claires que possible. On attend quand même de savoir, de voir un peu plus clair si l'ANC aura cette majorité. Mais si c'est Ramaphosa qui est le nouveau président, il peut mettre en place un système de gouvernance qui permettra de relancer l'Afrique du Sud peut-être dans les 2 ou 3 années qui arrivent. Il pourra le réussir si d'aventure il a autour de lui, s'il se fait entourer de gens techniquement compétents qui comprennent le monde moderne, parce qu'il y a aussi ça, et qui ne se lancent pas dans les questions d'idéologie, qui restent très pragmatiques, qui comprennent que la valeur économique d'un pays est quelque chose qu'il faut continuellement renforcer. Donc il a encore, pas seulement beaucoup à faire, mais beaucoup à prouver.
L'ANC joue effectivement sur sa crédibilité, mais on sait que le parti est divisé. Le camp Dlamini Zuma, qui se positionne aussi. Est-ce que les 5 prochaines années pourront permettre justement au pays arc-en-ciel de se relever?
Pas vraiment. L'évidence montre que les fractures internes de l'ANC ne lui permettent pas vraiment de diriger à fond efficacement un pays aussi complexe et moderne que l'Afrique du Sud. Mais il y a de très fortes chances, parce que maintenant il y a ce qu'on appelle, il y a une lumière qui vient juste de s'allumer dans la tête des responsables de l'ANC. On espère que cette lumière va leur permettre de prendre des décisions très importantes pour reformer pas seulement l'économie, mais l'État. Et ensuite reformer aussi ceux qui sont responsables des grands projets en Afrique du Sud pour permettre au pays d'avancer rapidement. Et ça va prendre beaucoup de temps, au moins 3 ans. Donc en 5 ans, on pourra peut-être voir les résultats en 5 ans, mais il ne faut pas être trop optimiste, il faut être juste pragmatique.
Kofi Kwaku est analyste politique à Pretoria.
Morgan Guerriette, en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, les élections générales en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel doit élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales mercredi. Le président Cyril Ramaphosa a de grandes chances d'être reconduit car la victoire de l'ANC, parti qui a mis fin à l'apartheid, est quasi assurée. Mais les défis auxquels devront faire face les vainqueurs sont de taille. L'économie sud-africaine se porte mal, le chômage dépasse les 27%, et les inégalités sont parmi les plus criantes au monde. Au plan politique, l'ANC, déjà fragilisée par des scandales de corruption, est divisée. On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
En République démocratique du Congo, l'augmentation du nombre de personnes touchées par l'épidémie d'Ebola inquiète. Les attaques répétées contre les centres de traitement et l'assassinat récemment d'un médecin ont causé un ralentissement des activités de riposte. La maladie a déjà fait plus de 1000 morts depuis le mois d'août dernier dans la région nord-est de Beni. Eddy Sango a joint dans le Nord Kivu le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, docteur Jean-Jacques Mouyembe.
Ça nous inquiète beaucoup, cet accroissement de nombre de cas. Cela est dû, entre autres, au fait qu'il y a beaucoup de périodes d'insécurité. Chaque fois qu'il y a une période d'insécurité, donc on arrête les activités de riposte. Les chaînes de transmission, alors, restent présentes et même ça augmente parce qu'on a arrêté donc les activités de riposte. Il y a d'autres raisons, mais je crois que ça, c'est la raison principale qui fait que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au cours d'un de cette épidémie.
Quelles sont les autres raisons alors?
Il y a une faiblesse dans la surveillance, mais le goulot d'étranglement, c'est surtout le fait que la communauté n'est pas totalement engagée, n'était pas appropriée cette lutte. C'est là vraiment le goulot d'étranglement principal.
On a connu plus de 10 épidémies déjà en RDC, d'Ebola, et cette fois-ci, par rapport aux autres fois, on bénéficie du vaccin. Mais qu'est-ce qui fait que malgré les vaccins, ce nombre continue toujours à s'accroître?
C'est là aussi l'erreur. C'est que les gens croient que c'est le vaccin qui va arrêter l'épidémie. Le vaccin n'est qu'un outil secondaire. Donc, pour lutter contre Ebola, nous l'avons toujours fait. À l'époque, donc, on vous dit que nous sommes à notre 10e épidémie. Les 8 épidémies antérieures, on n'avait pas les vaccins, mais on parvenait, n'est-ce pas, à vaincre vite ces épidémies en utilisant simplement les mesures de santé de base. C'est ça qui est le plus important. Donc, lavage des mains, précaution pour les cérémonies funéraires, isolement des malades, c'est ça qui est le plus important. Donc, détecter les détecteurs de contact, suivre les contacts, c'est ça qui est le plus important. Le vaccin s'ajoute, mais le vaccin ne va pas remplacer ces techniques, ces méthodes de base, qui sont les méthodes soit simples de santé publique.
Mais justement, l'OMS demande que l'on puisse augmenter le nombre de vaccins. J'ai vu un communiqué tout à l'heure.
Bon, le nombre de vaccins, c'est-à-dire il y a toujours le vaccin RVSV de Merck, mais ce vaccin a cette indication. On respecte cette indication-là. C'est donc faire une vaccination en ceinture. Mais nous avons besoin d'un autre vaccin qui est un peu plus large. C'est ça qu'on va utiliser dans les jours à venir.
Vous êtes à la tête d'une institution qui a mis sur pied aussi un vaccin. Et ce vaccin-là est utilisé. Et qu'en est-il de son efficacité?
Mon institution a contribué à la mise en place d'une molécule pour traiter les malades. Ce n'est pas un vaccin, mais c'est comme un médicament. Pour donner ça à quelqu'un qui est déjà malade, et donc là, le taux de mortalité va baisser. Quand nous utilisons déjà sur le terrain, il y a beaucoup de malades qui sont guéris en recevant donc ces molécules. Et il y a encore d'autres molécules comme les IMAP, les Regeneron et tout ça, que nous utilisons sur place. Alors, c'est comme ça que vous voyez aussi que le taux de mortalité par rapport aux épidémies antérieures tourne autour de 60%, 62%. Alors que dans les épidémies antérieure, on atteignait facilement 70%, 80% de mortalité.
Docteur Jean-Jacques Mouyambé, directeur de l'Institut national des recherches biomédicales.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, les républicains et démocrates sont à couteau tiré sur les conclusions de l'enquête de Robert Mueller. Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le rapport de Mueller ne donnait aucune preuve de connivence de l'équipe de campagne de Donald Trump avec la Russie. Tandis que la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, estime que l'enquête est loin d'être terminée. Le point avec Lionel Gaïma.
Certains démocrates influents, comme la sénatrice Elizabeth Warren, sont convaincus que le président Donald Trump a commis des infractions pendant la campagne de 2016.
Les informations qui nous ont été communiquées dans le rapport Mueller constituent clairement des preuves suffisantes pour entamer une procédure de destitution à la Chambre des représentants.
Nancy Pelosi a longtemps résisté à cette demande qui divisera davantage le pays et va consolider la base de Trump. Mais le président Donald Trump est toujours défiant, ce qui met à rude épreuve la patience de la présidente de la Chambre.
Ne dites à personne que je vous ai dit ceci. Trump nous incite à le destituer. C'est ce qu'il fait. Chaque jour, il se moque, il mime, se moque, car il sait que cela va encore diviser le pays. Mais il ne s'en soucie pas vraiment. Il veut vraiment consolider sa base. C'est trop politique. Nous ne pouvons le destituer pour des raisons politiques. Nous devons voir où nous mènent les faits.
William Barr, ministre américain de la Justice, a expurgé une grande partie des informations sensibles contenues dans le rapport de Robert Mueller. Jeudi dernier, il a refusé de répondre à une assignation à comparaître devant la commission judiciaire de la Chambre. Trump s'est juré de combattre d'autres assignations à comparaître de la Chambre. Et il vient d'invoquer ses privilèges présidentiels pour bloquer la publication du rapport complet de Mueller. Mitch McConnell, leader de la majorité républicaine au Sénat, a assuré mardi que l'affaire est close.
Cette enquête a duré 2 ans. Elle est finalement terminée.
Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate du Sénat, n'est pas du tout de cet avis.
375 anciens procureurs fédéraux ont examiné le rapport Mueller. Ils ont déclaré publiquement que la conduite du président équivalait à un crime, à une entrave à la justice, et que dans tout autre cas, il n'était pas président en exercice. Ces procureurs auraient recommandé des mises en accusation.
Les démocrates soulignent qu'une enquête sur l'ancien président Richard Nixon a pris beaucoup de temps avant qu'il soit reconnu coupable et démissionne pour éviter toute mise en accusation.
Vous êtes tous trop jeunes, mais vous le trouverez dans les livres d'histoire. C'est ma jeunesse, c'est une histoire. La non-destitution de Richard Nixon. Ce moment de vérité est arrivé après des mois et des mois d'enquête. Et les faits étaient si clairs.
Les démocrates accusent le président d'avoir abusé de son pouvoir exécutif pour saper le travail des législateurs. M. Trump leur répond que les démocrates lui ont fait perdre 2 ans de son temps afin de perturber son programme politique. Le débat est de plus en plus passionné et passionnel avec les auditions ce mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre. Chaque parti campe sur ses positions et peut-être le dernier mot sera un recours à la justice contre le ministre de la Justice.
Toujours aux États-Unis, des fidèles d'une mosquée d'Arlington en Virginie apprennent comment réagir face à une attaque armée. Cette formation fait suite à des fusillades dans des lieux du culte du monde entier, notamment en Nouvelle-Zélande où 50 personnes ont trouvé la mort dans une mosquée et à Pittsburgh aux États-Unis où 11 personnes ont été tuées dans une synagogue. Voici le reportage de Niloufar Mugal présenté par Irénée Hermanongbo.
Nous sommes à la mosquée Beitoul Mukarram d'Arlington en Virginie. Les fidèles ont terminé leur prière, mais ils sont encore sur place pour recevoir des notions de sécurité d'un agent de la police locale. Les policiers enseignent aux fidèles le comportement à adopter si quelqu'un ouvrait le feu dans la mosquée. Michael Kane est un agent de la police locale d'Arlington.
L'objectif de cette formation est de donner les outils nécessaires à une bonne réponse en cas de violence.
Une initiative que saluent ces fidèles musulmans.
C'était merveilleux. Je suis très heureux d'être ici et d'apprendre les techniques pour échapper à certaines situations inattendues dans les lieux publics, en particulier dans la mosquée.
J'apprécie vraiment le fait que la police du comté d'Arlington se soucie de nous. Ces gens se soucient vraiment de nous.
Cette formation est basée sur les meilleures pratiques du département de la sécurité intérieure des États-Unis. Elle promeut le modèle Run, Hide, Fight qui encourage avant tout les gens à s'enfuir, ensuite se cacher, puis riposter dans la mesure du possible. Les officiers exhortent également ses fidèles à faire tout ce qui est humainement possible pour survivre, se réjouit Meghan Elizabeth.
Je pense que c'était bien parce qu'au moins ça m'a fait réfléchir et m'a rendu mentalement plus brave. C'est encourageant de voir même des agents de police vous dire que le simple fait de se cacher sous un bureau avec une poubelle peut vous sauver la vie. C'est une bonne nouvelle.
Dans certains endroits, comme les immeubles administratifs, vous pouvez vous cacher dans la salle de bain et verrouiller la porte.
Les autorités religieuses ont décidé d'offrir cette formation à leurs fidèles après les dernières attaques contre des mosquées et des synagogues. L'imam Awai Ahmed explique.
Nous, les imams de la région, avions tenu une réunion au cours de laquelle nous avions estimé qu'un incident comme celui survenu en Nouvelle-Zélande peut se produire n'importe où. Donc nous avons décidé d'avoir ce programme. Nous avons sollicité l'aide du Cercle islamique d'Amérique du Nord et ils ont organisé cette formation avec l'aide de la police locale.
La chose la plus importante que la police doit savoir est votre localisation. Où êtes-vous? C'est la première chose qu'il faut indiquer.
La formation est ouverte à toutes les communautés religieuses. Les policiers entendent bien outiller ses fidèles. Ils souhaitent cependant que ceux-ci n'aient jamais l'occasion d'appliquer les leçons qu'ils ont apprises, c'est-à-dire qu'ils ne soient jamais victimes d'attaques.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Patrick Déa. La console, Georges Léonard Sagnot. La présentation, c'était Raissaï Girondin et Nathalie Barge pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.